McCaffrey. Trying to get around the right side. He does. McCaffrey leaps. End zone. Oh, touchdown. Up and in.
Play clock winding down. They get the playoff. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown. Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le 16e numéro du Poundcast, l'émission du compte Twitter NFL Panthers FR. Guillaume au micro pour animer cet épisode, dans lequel on va revenir sur le deuxième match de saison régulière des Panthers. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que l'on a déjà pu entendre dans un précédent podcast, il s'agit d'Elio. Bonjour, comment tu vas ?
Salut, ça va et toi Guillaume ?
Mais écoute, ça va très bien. Comme je le disais, on t'a déjà accueilli dans l'émission. Et on a eu l'occasion d'enregistrer plusieurs podcasts ensemble, mais jusqu'ici c'était principalement dans le cadre du college football, avec notamment The Trick Play, dont tu es l'animateur du podcast. Mais aujourd'hui c'est avec ta casquette d'administrateur du compte des Saints France que tu es là, puisque c'est cette équipe de New Orleans que les Panthers affrontaient dimanche au Bank of America Stadium.
Malheureusement.
Et oui, parce qu'on va évidemment analyser donc cette rencontre. Et avant de rentrer dans le détail, si vous n'avez pas pu voir ce match, alors tout d'abord, en tant que fan des Panthers, on vous le conseille. Et puis surtout, on va faire un rapide résumé de ce qui s'est passé. Donc si vous voulez le voir, bouchez-vous les oreilles pendant quelques secondes. En termes de scénario et de physionomie du match, on a eu quelque chose relativement similaire à ce qu'on a pu voir la semaine dernière contre les Jets, à savoir une première mi-temps où la défense des Panthers a totalement dominé. 17-0 à la pause, et par contre un troisième quart-temps un petit peu plus poussif offensivement, avec à nouveau 0 points au compteur, un field goal bloqué, une interception, donc pas folichon. Et derrière, une fin de match somme toute un peu plus sereine que la semaine dernière, j'ai trouvé, notamment grâce à la défense, et malgré un touchdown de Jameis Winston qui a ramené les Saints à 17-7, au final, voilà, une victoire 26-7. C'est la première victoire des Panthers à domicile contre les Saints depuis novembre 2016. Et j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais, Elio, quel est le bilan des Panthers face aux Saints entre ces deux victoires ? Je te donne un indice, il y a eu 9 matchs de jouer.
Un bilan d'une victoire et une défaite ?
Exactement. Je vois que tu as bien révisé.
Tout à fait.
Une victoire, et en plus, si on veut être pointilleux, je préciserai que cette victoire, c'est celle menée par Kyle Allen en semaine 17 de la saison, pas la saison dernière, celle d'avant. Donc voilà, les plus fervents défenseurs des Saints diront que c'était face aux remplaçants. Donc on a fait le résumé. La question que j'ai envie de te poser, alors tu m'accorderas peut-être pas le terme de démonstration, mais à défaut, on va peut-être pouvoir se mettre d'accord sur un qualificatif de victoire convaincante des Panthers de dimanche.
Victoire convaincante face à une équipe des Saints qui sortait quand même d'un très gros match contre les Packers. Alors on va en parler juste après, il y avait des absences et ce genre de choses, mais la confiance était tout de même là. C'est vrai que les Panthers, on a eu tendance un petit peu à vous oublier ces dernières saisons en NFC South, c'est ce que je disais en off avec Guillaume. Pour moi, l'effectif est très complet. On en parlait aussi avec The Trick Play pour les épisodes qu'on avait fait en commun. La construction sous Matt Rhule est faite au niveau de la draft, mais au niveau aussi des free agents. Et quand tu arrives face à notre défense qui est décimée avec quand même Mike Caffrey, Robbie Anderson, Terrace Marshall et DJ Moore, tu arrives avec des arguments. Voilà, et c'est ce qui s'est passé dimanche dernier.
Oui, parce qu'il y a effectivement donc l'ouragan, donc il y a quelques semaines, les blessures. Tu en parlais notamment en défense avec moi. J'ai noté un joueur majeur par rideau. Hein. Il y avait Davenport sur la ligne défensive, Quan Alexander au niveau des linebackers, et dans le backfield il y avait Latimore et Garner Johnson qui n'étaient pas là. Donc ça faisait un petit peu beaucoup. Et en plus il y avait 7 cas de Covid chez les coachs offensifs. Alors ça a peut-être joué aussi sur l'attaque des Saints.
Énormément, oui.
Mais ce qui a beaucoup joué aussi, c'est à nouveau cette défense et ce play-calling de Phil Snow. Seulement 128 yards d'attaque cumulée pour les Saints, seulement 6 first downs sur toute la rencontre. C'est deux plus petits totaux pour une équipe des Saints depuis l'arrivée de Sean Payton. Une pression constante sur Jameis Winston, 4 sacks, 11 QB hits. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que cette pression, elle vient de partout. La semaine dernière, on disait que c'était Shaq Thompson, notamment, qui avait été très en vue. Là, voilà, Morgan Fox qui a fait un gros match, Dequan Jones aussi, Hassan Reddick et Brian Burns toujours là, mais vraiment, voilà, on sent un pass rush, la menace arrive de partout.
Bah, d'autant plus que vous avez quand même, vous avez aussi drafté Derrick Brown l'année dernière. Donc pareil, c'est des genres, ce genre de joueur, ça ouvre des brèches pour d'autres défenseurs et voilà, ça en profite. Hassan Reddick qui sortait d'une très bonne saison chez les Cardinals, qui souhaitait le garder d'ailleurs, mais c'était trop cher. Enfin, la défense, c'est pareil, j'ai parlé de l'attaque il y a deux minutes, mais c'est votre côté défense est quand même très très fort. Enfin, ça s'est construit, vous avez un nouveau cornerback qui est Jesse Horn qu'on voulait absolument à la draft aussi. Encore une fois, à tous les niveaux, au niveau de la défense, vous avez des joueurs qui peuvent permettre de créer des big plays, de défendre sur n'importe quelle offense NFL à l'heure actuelle, même si, bien sûr, ça prendra plus de temps à se faire. Et c'est vrai que Phil Snow est un très bon défensif coordinateur, donc j'en doute pas.
Ouais, on avait des doutes, hein, avec, des questions quant à sa capacité d'adaptation. Voilà, là, depuis la fin de saison dernière et le début de saison que Phil Snow fait, on n'a plus de doute. Clairement, très bon défensif coordinateur pour les Panthers. Je parlais de la pression sur le quarterback. Il y a aussi une domination totale sur le jeu de course, puisque après avoir limité les Jets la semaine dernière à quelque chose comme 40 ou 45 yards, là, il y avait un nouveau défi en la personne d'Alvin Kamara qui se présentait. Tu mentionnais Derrick Brown, c'est une des raisons pour lesquelles le jeu de course a beaucoup de mal à se développer chez nos adversaires. Alvin Kamara, sur le match de dimanche, 8 courses, 5 yards au sol, et ça fait 84 yards accordés au sol en 2 matchs. Il y a peu d'équipes qui peuvent se targuer de limiter autant le jeu au sol de leurs adversaires.
Ce qui m'a dérangé, et on parlait aussi, c'est au niveau du play calling de Payton vis-à-vis du jeu de course. On a quand même tenté seulement 17 courses, alors qu'on a quand même 3 joueurs, 4 joueurs capables de courir, capables de créer le danger à ce niveau-là, dont Alvin Kamara. On aurait peut-être dû appuyer un peu plus dessus. Je pense qu'on a été frileux en voyant que ça ne fonctionnait pas forcément. Et pour le peu de temps, on avait le ballon, donc on a essayé plus de passes.
Alors justement, tu parlais du play calling. Alors moi, je vais avoir une question pour toi à ce sujet. J'avais juste une remarque, effectivement, sur les courses de Kamara. On l'a vu essayer plein centre, ça passait pas. On l'a vu essayer des courses sur les côtés, ben, il était pris en chasse par Burns ou Jeremy Chin. Ça semblait vraiment compliqué de mettre en place ce jeu au sol. Pour autant, je ne sais pas trop si je peux utiliser le qualificatif de terne, mais globalement, le play calling de Sean Payton m'a beaucoup surpris, voire même un peu déçu par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir de sa part. Alors, je ne sais pas si c'est lié à toutes les absences de ses assistants coach offensifs dont on parlait tout à l'heure, mais c'était... je ne l'ai pas senti super inspiré et même, j'ai envie de dire, assez vite résigné dans le match. Et pareil, parallèlement à ça, j'ai une autre question par rapport à cette utilisation de deux quarterbacks entre Jameis Winston, Taysom Hill qui s'interchangent en fonction des phases de jeu. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Est-ce que c'est une bonne solution pour mettre en confiance un quarterback titulaire, ou alors c'est voué à l'échec?
Avec l'absence de tous les coachs offensifs, il y avait un manque de fluidité évident. On a même pris un ou deux temps morts parce qu'on savait plus quoi faire. Il y a Taysom Hill qui rentre sur le terrain, on est obligé de prendre le temps mort parce qu'il sait pas quoi faire, tout ça, voilà. C'est là où on voit combien les assistants sont importants sur un match, même pour conditionner chaque compartiment de joueurs, les receveurs, les tight ends. Enfin, on n'avait pas un joueur d'ouvert déjà, ça c'était fallait le dire, parce que Winston prenait du temps pour lancer, ou essayait tant bien que mal de se dépatouiller à trouver un receveur ouvert, on n'en avait pas. Le jeu de course, on l'a pas assez utilisé, mais c'est vrai qu'on était lock. On a senti tout ce problème d'absence de coach offensif pour mieux analyser le match et beaucoup, donner beaucoup plus de tips à Peyton directement pour réagir, voilà, aller scorer, aller prendre les gros temps qu'il fallait. Au niveau de la question sur Winston et Tyson Hill, encore une fois, ça vient de là aussi. Je pense cette absence de coach offensif qui peuvent aider à dire ah bah là faudrait utiliser Tyson dans tel système et puis ça peut rentrer, ça peut nous donner le first down, ce genre de choses. Ça a énormément joué. L'absence aussi de gros playmaker hein, au niveau du post receveur à jouer. Il y a eu tout un ensemble qui a fait que notre attaque a été totalement inefficace, mais Jameis Winston, c'est le quarterback numéro 1 sans aucun doute. Je pense que Winston, avec des receveurs un peu plus ouverts et surtout une O-line qui fonctionne, parce que le pire, c'était tout de même l'O-line, on pouvait jouer sans, ça aurait été pareil. Je pense que Winston aurait pu faire quelques beaux tours, mais là, c'était pas du tout le cas. Il avait aucune occasion et aucune chance pour lancer de belles passes.
Et justement, je rebondis par rapport à cette O-line, parce que je disais dans l'émission de la semaine dernière, un petit peu en preview de ce match, que la O-line des Saints, depuis quelques années, faisait quand même partie des lignes offensives de référence hein, dans la Ligue. Qu'est-ce qui a pu expliquer justement le fait qu'il soit passé à côté et qu'il soit tant dominé par ce pass rush? C'est vraiment la défense des Panthers qu'il faut vraiment prendre au sérieux pour toi, ou alors c'est un non-match de votre ligne offensive?
C'est un mix des deux, je pense. Du côté de notre O-line, déjà, on avait l'absence d'Eric McCoy, qui est le center titulaire, qui est un très très bon joueur. Donc on a fait passer le right guard en center César Ruiz. Ça a bien fonctionné face aux Packers. On a remarqué hier soir avec le Monday Night Football que finalement, la défense des Packers, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux aussi en ce moment. Je sais pas, il y a des jours comme ça où ça fonctionne pas. Je pense à ce match qu'on perd face aux Vikings en playoff il y a 2 ans. Pareil, la O-line qui est inexistante, alors que toute la saison fait partie des meilleures O-line du pays. Ça arrive, mais là, tout le monde était dépassé. Il y en a pas un qui a été meilleur qu'un autre. Ils étaient tous très nuls. Après, encore une fois, votre défense sur la D-line, il y a des gros joueurs. Je pense à Derrick Brown, je pense à Burns, je pense à Fox. Quand il y a des gros joueurs et que c'est pas la journée, ça se sent vite, et c'est ce qui s'est passé dimanche.
Pour finir avec cette défense, t'en as évoqué un mot tout à l'heure, mais on avait des questions par rapport au defensive back, qu'on n'avait pas vraiment eu l'occasion de voir à l'œuvre face aux Jets la semaine dernière. Bon, ben là, il termine la rencontre avec 2 interceptions. Alors, des interceptions dans le plus pur style de Jameis Winston, hein, j'ai envie de dire, deux jolies saucisses. Mais le plus important, c'est qu'il y en a une pour Jesse Horn, que tu mentionnais tout à l'heure comme une des cibles que les Saints visaient à la draft. C'est d'autant plus cocasse qu'il réussisse sa première interception en carrière face à vous, où a évolué, pour les plus anciens fans de NFL, le papa de Jesse Horn, Joe, qui évoluait au poste de receveur pendant de nombreuses années à la Nouvelle-Orléans. Mais globalement, oui, les cornerbacks ont été plutôt bien pour couvrir les receveurs, où là encore, il manquait quand même, si je dis pas de bêtises, Michael Thomas blessé, et Tre'Quan Smith était également absent. Donc voilà. Je te propose qu'on bascule du côté de l'attaque des Panthers, parce que là aussi, on a quand même une grosse question qui commence à pointer le bout de son nez. Est-ce qu'on peut croire en Sam Darnold et en cette résurrection? Il avait sorti un match plutôt correct la semaine dernière. Là, cette semaine, c'était, personnellement, j'ai trouvé mieux encore. Il termine à 26 sur 38, 305 yards, 2 touchdowns. Alors, il y a une vilaine interception dans le troisième quart-temps qui a permis aux Saints d'inscrire le touchdown quelques actions plus tard. Si j'étais taquin, j'oserais préciser que je ne suis pas sûr que les Saints inscrivent un point s'il n'y a pas cette interception, mais ça, on ne le saura jamais. Mais globalement, si j'enlève cette interception de Darnold et une passe en premier quart-temps où il lance, où elle est presque interceptée, c'était pas forcément une très très bonne inspiration. Globalement, je l'ai trouvé très bien dans la poche. Bonne lucidité aussi, parce qu'il récupère notamment un mauvais snap du centre à un moment, et il y a une action aussi où Cameron Jordan est tout près de lui faire perdre le ballon, il réussit à la réceptionner pour partir à la course et trouver un receveur dans la end zone, enfin dans la red zone, pardon. Globalement, un bon match de Sam Darnold. Alors, je crois que tu n'étais pas son plus fervent believer en début de saison. Est-ce que tu commences à y croire ?
Darnold, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que lorsqu'il est drafté, ça doit être lui le quarterback numéro 1 de la draft. Alors moi, je suis un gros fan de Mayfield, mais c'est vrai que de base, tout le monde mettait Darnold en first pick de la draft devant Mayfield chez les Cleveland Browns. Maintenant, moi, la partie qui me faisait vraiment peur avec Darnold, c'était finalement des années loupées où il n'a pas pu progresser chez les Jets et un mental complètement cassé. C'était plus au niveau du mental que je me méfiais. En revanche, là, voilà, encore une fois, on lui a donné des armes offensives. Quand on regarde la classe de draft de cette année, vous prenez quand même un très bon tackle, un bon guard. Vous n'avez pas la pire O-line de NFL. Et ça, c'est aussi important pour donner confiance à ce genre de joueur. Et je pense que oui, si Darnold peut finalement récupérer son potentiel, s'il n'est pas mort mentalement, pourquoi pas ? Ça peut devenir un bon quarterback d'NFL. Très bon, je sais pas, mais un bon quarterback titulaire d'NFL, pourquoi pas. Après, il est encore trop tôt pour le dire ou pour le savoir, mais pour l'instant, il fait mentir les gens et ça, c'est plutôt bien pour lui, sachant que c'est un bon gars en plus, donc c'est important.
Ouais, c'est vrai qu'alors il est bien épaulé, comme tu le dis, c'est pas lui qui a toute la charge de l'attaque. Dimanche, Christian McCaffrey a fait du Christian McCaffrey, donc un touchdown et plus de 130 yards en cumulé. Il y a DJ Moore. Alors, en tant que fan de Maryland, tu devais être un petit peu tiraillé de voir l'ancien Terrapins faire la misère à Paulson Adebo dans le backfield défensif des Saints. Il sort 8 réceptions et 80 yards et un touchdown. On a vu aussi Dan Arnold et Brandon Zylstra qui ont pointé le bout de leur nez, qui n'était pas forcément attendu. Il est plutôt entouré. Terrence Marshall Jr. aussi a montré des bonnes actions dans certaines phases de jeu, il était plutôt à l'aise. Alors il y a toujours cette O-line, effectivement, qui est perfectible, qui n'est pas aussi horrible que ce qu'on pourrait attendre. Je ne sais pas ton avis là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'était pas rassurés du tout. Et au final, ça tient juste ce qu'il faut pour le moment, j'ai envie de dire.
Comme je t'ai dit, vous avez quand même drafté Deontay Brown et Brady Christensen, qui étaient quand même deux très bons O-line en college football. Alors, encore une fois, c'est seulement la week 2, donc il faut laisser un temps d'adaptation. Matt Paradis en center. Non, je pense que il y a bien pire en NFL au niveau de la O-line. Donc je pense que voilà, encore une fois, c'est un chantier sur lequel il faut travailler, notamment lors de la prochaine draft ou de la prochaine free agency, mais... Une fois que c'est renforcé, ça peut bien aider. Et juste pour revenir pour la petite anecdote, alors DJ Moore, oui, je pestais devant mon écran en disant « Non, pas toi, DJ !» Mais c'est vrai que c'est un très bon receveur. Et enfin, quand il marque, sauf face à nous, ça me fait toujours très plaisir. Et Dan Arnold, c'était un ancien tight end de chez nous. Vous aimez bien les anciens mecs un petit peu spéciaux de chez nous, pas terrible, mais qui arrivent à... je sais pas, mais... Et Dan Arnold, pour la petite anecdote, avait relâché un ballon qui était... quasiment touchdown en finale NFC face aux Rams avant que notre cœur soit brisé. Voilà, donc il est resté dans les mémoires des fans des Saints pour de mauvaises raisons et ça a pas mal jacté quand il a fait ses réceptions dimanche.
D'autant que si je me rappelle bien, il y en a une qui est pas loin de compter pour un touchdown. Il est arrêté à 2 yards de la ligne ou quelque chose comme ça. Mais oui, après, on sait que l'arrivée de Joe Brady en tant que coordinateur offensif chez les Panthers il a commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait du côté du roster de la Nouvelle-Orléans, lui qui a été ancien assistant coach de Sean Payton. Les derniers points que je voulais aborder, moi, rapidement au niveau de l'attaque des Panthers, c'était l'efficacité en red zone, qui a été un des gros points faibles la saison dernière, qui était pas idéal la semaine dernière en semaine 1. Bon, il y avait un petit peu de mieux cette semaine, mais on sent toujours que first and goal dans les 5 yards, on a du mal et on a tendance à rester vraiment sur du play calling assez safe et surtout pas très très efficace. Donc au final, c'est passé cette fois. Il y a quand même eu 3 touchdowns en red zone, si je dis pas de bêtises, dimanche. Donc c'est quand même déjà ça. Et l'autre point qui était bloquant, c'est les field goals. Hein, on est en galère de kicker du côté des Panthers. Ça en devient presque une blague de manquer un extra point par match. Là, en plus, il y a eu un field goal bloqué. Alors, c'est pas la faute du kicker, mais bon, au final, ça fait toujours un field goal raté pour lui. Ça a failli relancer un peu les Saints, d'ailleurs. Moi, ce qui m'a marqué, le dernier truc que je voulais aborder, c'est au niveau de la défense des Saints, j'ai trouvé beaucoup de pénalités, des roughing the passer, des pénalités pour unnecessary roughness. Alors, est-ce que tu mets ça sur le compte d'une la frustration dans la façon dont le match s'est déroulé, de la nervosité, un peu de fébrilité, parce que c'était des joueurs avec les absences qui n'étaient pas forcément habitués à être titulaires. Est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se passer?
Ah, c'était 50-50. Alors, je sais, on va dire, les Saints, on aime bien gueuler par rapport aux arbitres. C'est vrai. Mais c'est vrai que les arbitres NFL, faut le dire, cette année, c'est quand même... Enfin, cette année, depuis des années. Mais là, cette année, en particulier, on le voit sur les matchs récents, c'est quand même très, très mauvais. Là, encore une fois, il y a quelques flags qui sortent. Je suis pas totalement d'accord. Je suis pas totalement d'accord et je pense qu'on est pas mal à le dire. Après, c'est vrai que bon, il y a eu quelques flags en revanche qui étaient totalement méritées. Et oui, je pense à 2-3 actions et notamment à l'encontre de Darnold où ça aurait pu être évitable. On avait quelques rookies sur le terrain. Je pense à un flag que Peyton Turner, notre rookie Dien, se prend en accrochant Darnold alors qu'à un moment, bon, tu peux le relâcher, ça va. Et oui, je pense qu'il y a de la nervosité, il y a de la frustration, il y a aussi pour certains jeunes de l'envie. Et voilà, c'est un petit peu un mix de tout ça, plus quelques erreurs arbitrales, pas pour vous avantager, hein, tout simplement que les arbitres, à mon sens, sont vraiment mauvais.
Moi, de ce côté-là, j'avoue que j'évite de trop parler de l'arbitrage parce que de toute façon, d'une semaine sur l'autre, ça va tourner en faveur d'une équipe, puis ça va être pour l'autre la semaine d'après. Donc à ce niveau-là, il y a de la constance, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de... Je ne me focalise pas trop sur ce point-là, je te l'avoue. On arrive plus ou moins au terme de cette émission. Avant de conclure, on va rappeler que les Panthers jouent dans la nuit de jeudi à vendredi à Houston. Un déplacement pourrait éventuellement passer à 3-0. C'est le quarterback rookie Davis Mills qui devrait être quarterback des Texans. On va pas dire que sur le papier c'est un match gagné, loin de là. Tu le sens comment pour les Panthers ce match?
Ah, je le sens plutôt bien. C'est vrai que les Texans, on s'attendait quand même à ce que ce soit un petit peu plus compliqué pour eux en début de saison. Finalement, ils essayent de jouer avec leurs armes, on va dire. Ils essayent de jouer au maximum. Ça, c'est tout de même intéressant pour eux. En revanche, voilà, Davis Mills qui va jouer contre vous, leur quarterback, il a quasiment pas joué en universitaire à cause de blessures, tout ça. Et puis la saison où il est titulaire, bah, c'est la saison Covid. Il joue en Pac-12 qui a joué seulement 5 matchs. Donc voilà, Stanford, un peu compliqué. Il arrive en NFL avec un potentiel, mais un potentiel pourquoi ? Donc je pense qu'en Rick Free face à la défense des Panthers, ça risque d'être très compliqué pour lui. Et je pense que vous aurez une victoire. Je dis pas facile, mais victoire dans tous les cas. Voilà. Je veux pas me mouiller en disant que ça sera facile, mais bon.
Bon bah écoute, on va espérer que tu as raison. Moi je me méfie toujours un peu, hein. J'ai encore en tête la jurisprudence Kyle Allen. Je pense que les fans des Cardinals, il y a quelques saisons de ça, ont encore en mémoire la performance XXL de Kyle Allen pour son premier... pour sa première titularisation. Donc voilà, on va se méfier, mais effectivement, peut-être que vendredi matin, quand vous vous réveillerez, les Panthers seront à 3-0, et ce serait, ma foi, un excellent départ. Je pense qu'on pourrait difficilement rêver mieux. Elio, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour venir discuter de ce match avec moi.
Merci pour l'invitation, avec plaisir.
On te retrouve... sur The Trick Play avec tous les copains pour parler college football.
Tout à fait.
La prochaine émission, c'est...
Il y en a une qui est sortie aujourd'hui. On est mardi. Il y en a une qui est sortie aujourd'hui. Et on se retrouve surtout tous les week-ends. Vous pouvez nous voir The Trick Play sur Twitch à 17h, juste avant les journées de college football. On fait une petite heure, on discute college football et des matchs à venir. Voilà.
Très bien. Et quant à vous, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous soit dans la nuit de jeudi à vendredi pour suivre le match contre Houston donc, ou alors si vous préférez garder vos heures de sommeil, ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission débrief. À bientôt.
Salut.